Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François Dorcival.
Thierry de Montbrial, bonjour. Voici donc réunis pour cette nouvelle édition de notre entretien Éclairage sur l'actualité internationale. Cette émission intervient quelques jours après l'exécution de Ben Laden par un commando américain sur décision de Barack Obama. Elle intervient alors même que se poursuit une répression très dure de la Syrie contre une partie de sa population qui se révolte, comme cela a été le cas dans d'autres pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. La Libye de Kadhafi continue de résister à l'intervention de l'OTAN et en particulier des avions français et britanniques. Et Israël se trouve dans une situation délicate à l'égard des Palestiniens. Donc nous voilà devant trois thèmes qui me paraissent être les uns et les autres des sujets majeurs, qui nous renvoient tous à des sujets que nous avions un peu laissés de côté depuis quelques mois et qui, là, depuis le début de cette année, reviennent au tout premier plan de l'actualité. Nous allons commencer par Ben Laden, d'abord parce que militairement c'est un succès, ensuite parce que c'est une décision qui a été prise par Barack Obama, qui ressemble quand même beaucoup à ce que faisait George Bush, son prédécesseur, qu'il avait tant condamné. Je veux dire par là qu'il s'est lancé dans cette opération en allant chercher son adversaire chez lui avec des hommes et non pas avec des missiles. Et donc, quelles sont les conséquences de cette opération pour la diplomatie américaine, pour l'image de l'Amérique dans le monde, pour la manière dont se présente désormais Barack Obama? Incontestablement, il a profité de cela pour gagner des points dans les sondages. Qu'est-ce que cela signifie à un an de la nouvelle campagne présidentielle américaine?
Alors, je crois tout d'abord qu'il faut tout de même bien distinguer entre Bush et Obama, parce qu'une chose est d'envoyer des dizaines de milliers d'hommes pour occuper un pays pendant maintenant 10 ans, et une autre est d'envoyer un commando avec 75 à peu près hommes et 4 hélicoptères. Et là, il a pris une décision, ce qui ressemble davantage, c'est-à-dire à l'opération de Carter à Téhéran en 1979-80, oui, et qui avait d'ailleurs échoué. Alors, juste pour la petite histoire, mais petite histoire comme très importante ici, ils avaient évidemment beaucoup de renseignements, mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas, c'était si Ben Laden se trouvait effectivement dans la maison ou non. Ils ne le savaient pas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Obama a demandé 48 heures de réflexion. Mais en lançant l'opération, il savait parfaitement que même si elle réussissait techniquement, s'il s'avérait que Ben Laden était absent, c'était un échec. Et à ce moment-là, tout le monde, le monde entier, lui serait tombé dessus et s'en aurait probablement été fini de sa présidence. C'est-à-dire que Obama a pris un réel risque personnel. Alors vous dites, il en profite, maintenant il va en profiter, certes, mais s'il avait raté, il en aurait profité aussi, si je bosse, si
mais
j'ose
m'exprimer. En sens inverse.
Voilà, en sens inverse. Donc, il y a quand même pas mal de différences. Alors, il y a un autre point également qui joue en faveur d'Obama, qui est qu'il y a une moisson, semble-t-il, d'informations qui est récoltée à ce propos. Et donc, ça va probablement avoir un certain effet qui n'est pas au-delà du simple effet psychologique. Oui. Alors maintenant, sur la situation aux États-Unis, d'abord, je sais que ce que je vais dire a été dit avant moi par Jean-Marie Le Pen, ce qui n'est pas une bonne référence, mais c'est quand même dans la grande tradition des westerns et des shérifs. Les États-Unis sont fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire aller punir le coupable, l'exécuter. Je ne crois pas un seul instant qu'ils ont envisagé de le prendre vivant. Je pense que c'est une opération dans le plus grand style de la tradition américaine. Et donc cette opération a eu lieu et elle a été d'ailleurs applaudie avec un enthousiasme extraordinaire par l'ensemble de la population américaine. Alors est-ce que c'est de nature à garantir la réélection d'Obama ? Je ne le sais pas, mais ce que je sais en revanche, c'est que Obama a atteint son creux au moment ou peu avant, je dirais plus précisément, les midterm elections, donc l'élection du mois de novembre. Depuis, ça remonte et naturellement, cet événement y contribue. Et je crois qu'en effet, surtout si on voit qu'il y a à peu près personne en face pour le moment, tout au moins, ceci augmente les chances d'une réélection.
Sur le terrorisme lui-même et notamment les racines salafistes de ce terrorisme, ce que l'on peut noter tout de même, c'est que finalement, les équipes d'Al-Qaïda se sont dispersées à partir de l'Afghanistan, puisqu'elles n'ont plus pu rester sur le territoire afghan dans la mesure où les armées occidentales s'y trouvaient. On les a vus agir notamment au Sahel, nous en avons, nous Français, été les victimes, mais finalement, depuis la clandestinité de Ben Laden, son organisation n'a trouvé refuge nulle part en tant que telle. Et donc, est-ce que c'est un échec? Est-ce que, d'après ce que vous savez de la moisson d'informations qui a pu être réunie par les Américains, cet échec va entraîner le reste de l'organisation, quitte à ce que celle-ci trouve d'autres évolutions, d'autres transformations, mutations dans l'avenir?
Je crois que Obama et les autorités américaines ont tout à fait raison d'être extrêmement prudents quand ils s'expriment sur ces sujets. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la même technologie qui sert aux terroristes pour organiser des attentats n'importe où sur la planète, la même technologie sert également à déjouer ces attentats. Et ce qu'on voit bien depuis, en fait, 2001, c'est qu'il est extraordinairement difficile d'organiser des attentats de grande ampleur sans être pincé, sans être repéré. On laisse beaucoup de traces.
Oui.
Et je crois qu'aujourd'hui, il peut certes y avoir des attentats réussis, il peut certes y avoir des drames, mais je crois que c'est, si j'ose dire, par accident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des attentats sont déjoués. Et sur le moyen et le long terme, je pense que l'énergie des salafistes ou autres, l'énergie des terroristes ira en diminuant. Et d'ailleurs, ceci nous ramène à ce qui se passe au Moyen-Orient plus généralement, parce qu'on voit bien qu'il y a deux grands courants qui, en réalité, s'affrontent. Et on le voit d'ailleurs dans chaque pays individuellement.
Exactement.
À savoir une espèce de querelle d'ancien et de moderne.
Oui.
Vous avez les mouvances islamistes qui continuent d'être là et qui cherchent à affirmer leur présence. Et puis, on voit bien qu'il y a également un vent libéral. Maintenant, quel est de ces deux courants celui qui va l'emporter? Premièrement, nous ne le savons pas. Je crois que ça va dépendre énormément aussi cas par cas.
Oui.
Et d'un point de vue historique, tout cela n'est pas sans faire penser à des épisodes du 19e siècle, 1830, 1848, etc.
Ah oui, mais cette fois en Europe.
Et en Europe, mais,
oui.
mais c'est d'aller assez loin, parce que c'est parti soit de la France dans les
oui,
deux
oui,
cas,
absolument.
Et ça s'est répandu sur l'ensemble de l'Europe, ce qui à l'époque était beaucoup.
Tout à fait. Alors, c'est une transition vers, en effet, le théâtre proche-oriental et celui de ces révolution entre guillemets populaire, on a là deux théâtres très contrastés, mais qui se traduisent par des événements similaires, en tout cas dans le pays. Je veux parler de la Libye, dans un premier cas. La Libye où Kadhafi a menacé les populations qui s'insurgeraient contre lui d'être massacrées, entre guillemets. C'est le cas libyen. Nous avons réagi à ce cas libyen et parce qu'il y avait la Cyrénaïque et les populations de Benghazi en intervenant, c'est-à-dire en procédant par bombardements aériens. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où les bombardements continuent, l'insurrection continue, mais le pouvoir tient. Qu'est-ce qui peut se passer? Et puis nous avons un deuxième théâtre, la Syrie, où là, le gouvernement de Bachar el-Assad fait front lui aussi contre une insurrection populaire. Il réagit brutalement. Et la situation qui est la sienne est telle que la communauté internationale, entre guillemets, est dans l'incapacité de réagir. Donc je voudrais que vous reveniez sur qu'est-ce qui peut se passer dans le cas libyen et quel peut être l'avenir de la situation en Syrie.
Alors tout d'abord, il faut toujours se rappeler l'importance de ne pas être naïf dans le domaine des relations internationales. Les relations internationales, c'est un monde dur, un monde d'affrontements d'intérêts. Kadhafi était isolé. Kadhafi a su acheter un certain nombre de gens, et de particuliers, peut-être même des États, des chefs d'État, etc., dans sa vie. Mais enfin, il n'a pas constitué d'alliance en sa faveur. Par conséquent, quand la situation a dégénéré et que le Conseil de sécurité, en grande partie d'ailleurs sous l'action de la France et de la Grande-Bretagne, a décidé d'intervenir, no-fly zone, la zone d'interdiction aérienne, etc., il s'est retrouvé sans alliés. Et ça, c'est un point très important. Pour autant, nous, je veux dire la communauté internationale, entre guillemets, j'en fais toujours des guillemets quand je parle de
oui.
communauté internationale, y sommes allés un peu à l'aveuglette. Parce que la vérité, c'est que nous sommes extrêmement mal renseignés sur les forces en présence. Nous connaissons mal enfin, à ma connaissance tout au moins, nous connaissons mal les affiliations tribales, qui dépendent de qui, nous savons mal quelles sont les allégeances, quels sont les gens que Kadhafi et ses hommes ont pu soudoyer, etc. D'autre part, on sait bien, et ça c'est une constante de la stratégie, qu'on n'a jamais gagné des guerres par des opérations purement aériennes. Donc on y est allé un peu à l'aveuglette. Fallait-il pour autant ne pas y aller ? Sur ce point, je vous avoue que je suis encore maintenant assez hésitant, car d'un autre côté, à nos portes, laisser Kadhafi massacrer ses populations et reprendre le pouvoir en écrasant les résistants,
c'était
difficile à soutenir. Alors, en effet, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où il y a plusieurs sorties possibles. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, et vous l'avez dit d'ailleurs, c'est que la Libye n'est pas un pays unifié. En réalité, c'est deux, sinon trois pays, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et toutes les terres du Sud. Et une hypothèse possible, qui n'est pas d'ailleurs forcément réjouissante, c'est l'éclatement de la Libye. Est-ce que soit une Libye néanmoins unifié ou différents morceaux, est-ce que ça peut devenir, ça peut évoluer dans le sens de la démocratie ? Je n'en suis pas sûr du tout. Du reste, cette interrogation ne vaut pas seulement pour la Libye, elle vaut aussi pour d'autres pays, y compris d'ailleurs l'Égypte ou la Tunisie même, encore que ce soit, enfin, il y a beaucoup de scénarios possibles. Donc, nous sommes un peu dans le noir, il faut bien le dire. Et le point clé, c'est que Kadhafi, nous le voyons évidemment comme un insupportable dictateur, etc., mais nous évaluons très mal les forces qui le soutiennent. En Syrie, nous avons une situation tout à fait différente. La Syrie est un pays beaucoup plus unifié que la Libye, donc je ne crois pas qu'il y ait un problème concernant la Syrie en tant qu'État. Mais en revanche, nous savons que depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis Hafez el-Assad, le père, donc depuis plus de 40 ans maintenant, la Syrie est gouvernée par une secte minoritaire, les Alaouites, qui représentent à peine 10% de la population. Et rappelez-vous que quand Hafez el-Assad est mort, ou même quand on disait qu'Hafez el-Assad risquait de mourir, eh bien, beaucoup d'experts annonçaient une guerre civile au lendemain même de sa mort. Et il est mort, il n'y a pas eu de guerre civile, et le régime a tenu. Donc, nous nous trouvons dans cette situation. Et alors, cette situation, c'est en effet celle d'une tentative de soulèvement contre la dictature alaouite, mais en même temps, une très très grande prudence de la communauté internationale, toujours avec les guillemets, parce que contrairement au cas de Kadhafi, il y a des imbrications régionales tout à fait majeures. Et je pense évidemment particulièrement
à l'Iran,
je pense évidemment au Liban et je pense évidemment à Israël. Et on se trouve dans cette situation un peu paradoxale, qui est d'ailleurs un problème pour Israël d'une manière générale, c'est qu'on se demande parfois si Israël n'a pas un certain regret des dictatures.
Oui, mais alors justement, quelle peut être l'issue, en un mot, à propos de la Syrie ? Est-ce que Bachar, enfin le clan qui est au pouvoir, va se maintenir, après tout comme les Iraniens ? Ou bien est-ce que c'est la rue qui va finir par faire éclater le pays ?
Je crois que au moment où nous parlons, nul ne peut dire quelle va être la sortie. Parce que si le régime parvient à restaurer de force son autorité, un jour ou l'autre, ça recommencera. Et si on reprend encore les analogies du 19e siècle européen, on a vu qu'une révolution peut échouer et puis repartir, etc. Et parfois, ça peut prendre plusieurs dizaines d'années avant que ça n'aboutisse. Mais tout ceci illustre la très grande complexité des relations internationales. Le deux poids, deux mesures fait hélas partie de la réalité politique. On peut s'en lamenter, mais c'est ainsi. Si vous permettez, je voudrais rajouter un autre élément pour illustrer la complexité de la situation. Certains se réjouissent de ce que le droit international progresse. Le droit pénal international progresse, la Cour pénale internationale, etc. etc.
Sauf
etc.
dans le cas d'Obama, entre parenthèses.
Mais, alors, non, bien entendu. Parce que, c'est les États-Unis, ni les Américains, ni les Russes, ni les Chinois n'ont ratifié la création de la Cour. Mais ce que je veux dire est différent. C'est que on voit bien à propos de Kadhafi que dans certains cas, la sagesse politique pourrait être de laisser une porte de sortie au dictateur. Si un dictateur est certain qu'en perdant, il perd tout et qu'il va se retrouver traîné devant une justice pénale internationale, se retrouver en prison et, le cas échéant, condamné à je ne sais quoi, eh bien, il peut rationnellement calculer qu'il doit aller jusqu'au bout dans la répression. Alors, répondre à ça n'est pas évident du tout. Et vous avez bien vu qu'il y a eu ces dernières semaines des discussions sur ce qu'on pourrait offrir comme exil à Kadhafi. Alors là encore, je ne peux pas prétendre connaître la réponse, mais ceci illustre bien l'extrême complexité des choses aujourd'hui.
Notre troisième point, qui ne nous fait pas quitter la région, bien au contraire, c'est la situation dans laquelle se trouvent désormais les Israéliens. Le Premier ministre israélien était à Paris la semaine dernière, il était à Londres la veille de rencontrer Nicolas Sarkozy, et nous savons qu'il est attendu à Washington. Les Palestiniens ont fait de gros progrès aux Nations Unies, où ils ont obtenu de plus en plus d'être reconnus par un très grand nombre de pays. Et naturellement, on voit bien que leur campagne diplomatique consiste à obtenir la reconnaissance d'un État palestinien malgré l'opposition ou les réserves d'Israël à ce sujet. Quand on pose ce type de question au Premier ministre israélien, il répond ce qu'il a dit à David Cameron, ce qu'il a dit à Nicolas Sarkozy, ce qu'il dira à Barack Obama, que les Palestiniens reconnaissent l'État juif et à ce moment-là, les choses deviendront possibles. Est-ce que cette situation peut, dans le décor qui est le nôtre, que vous venez de décrire, évoluer effectivement ou bien est-ce qu'elle est destinée de nouveau à s'enliser ?
D'abord, elle évolue. C'est ce que vous venez de dire vous-même. Et je pense que malheureusement, les Israéliens, là je parle des autorités, du gouvernement israélien, n'ont pas fait preuve d'une grande sagesse depuis bien des années. Et l'opinion publique d'ailleurs israélienne et je crois l'opinion publique juive à l'extérieur d'Israël divisée sur ce sujet. Il y a eu une sorte de radicalisation depuis des années et il est possible qu'aujourd'hui Israël paye cette intransigeance. Il me semble que la tendance, particulièrement après tout ce qui s'est passé à Gaza ou ailleurs, la tendance est effectivement à la reconnaissance d'un État palestinien. Et je crois que les Palestiniens, en tentant de se réconcilier, parce que la réconciliation du Fatah et du Hamas, ce n'est pas rien, oui, vont dans ce sens-là. N'oublions pas également que Barack Obama s'est, contrairement à ses prédécesseurs, engagé sur ce dossier tout de suite, n'est-ce pas, dès le début de son premier mandat. Et je suis persuadé qu'il a à cœur aussi de faire avancer le Spielblick sur cette question israélo-palestinienne. Ça ne veut pas dire laisser tomber Israël. Personne ne va laisser tomber Israël. Mais l'idée qu'on aille vers une reconnaissance d'un État palestinien sans la précondition d'une reconnaissance formelle, etc., est devenue possible. Et j'ajouterai alors un point qui nous ramènera aussi à la complexité des relations internationales contemporaines et à la question du droit international, c'est que si on était amené à reconnaître un tel État, ce serait la première fois à ma connaissance qu'on reconnaîtrait un État dont les frontières ne sont pas déterminées. Car du point de vue du droit international, un État, ça comprend des frontières, un territoire, une population, un gouvernement. Donc là aussi, il y aurait innovation en matière de droit international. Et enfin, je rajouterai un dernier point qui concerne la France, c'est que je ne peux pas ne pas penser à une certaine analogie entre la présidence Sarkozy et la présidence Giscard. Car rappelez-vous, quand Valéry Giscard d'Estaing est devenu président de la République, il est arrivé avec une posture qui était interprétée à l'époque comme extrêmement pro-israélienne. Et à la fin de son septennat, évidemment, c'était la déclaration de Venise, on était dans un contexte qui avait sensiblement évolué. Et on peut se demander si on n'a pas une évolution similaire et si la position plus ouverte à l'égard des Palestiniens que prend actuellement Sarkozy n'est pas, justement, n'a pas été rendue possible par le fait qu'il est apparu comme une personnalité au-delà de tout soupçon concernant la relation avec Israël.
Thierry de Montbrial, merci beaucoup. Nous nous retrouverons donc le mois prochain et j'imagine que l'actualité internationale et proche-orientale n'aura pas cessé de nous préoccuper. Merci beaucoup.
Merci.